Hardigan. Hardigan présente Cthulhu, le mythe. H.P. Lovecraft. Lu par Nicolas Planchet. L'appel de Cthulhu. Document retrouvé dans les papiers de feu Francis Wayland Thurston, de Boston. Il est fort probable que de telles entités, de telles puissances, aient laissé des vestiges. Des vestiges d'une ère infiniment lointaine où la conscience adopta peut-être des formes et des aspects disparus bien longtemps avant le déferlement de la marée humaine. Des formes oubliées, dont seule la poésie et la légende ont perpétré le souvenir fugace, en les nommant dieux, monstres et créatures mythologiques de toutes sortes. Algernon Blackwood. Grant 1. L'abomination d'argile. La chose la plus miséricordieuse en ce bas monde, eh bien, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à mettre en relation tout ce qu'il contient. Nous habitons un paisible îlot d'ignorance, cerné par de noirs océans d'infini, sur lesquels nous ne sommes pas appelés à voguer bien loin. Les sciences, chacune creusant laborieusement son propre sillon, nous ont jusqu'à présent épargnés, mais un jour viendra où la conjonction de tout ce savoir disparate nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur la réalité et sur l'épouvantable place que nous y occupons, que nous ne pourrons que sombrer dans la folie devant cette révélation, ou bien fuir la lumière pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Les théosophes ont pressenti l'envergure grandiose et terrifiante du cycle cosmique au sein duquel notre monde et notre espèce ne sont rien de plus que d'éphémères incidents. Ils ont évoqué d'étranges rémanences en des termes qui nous glaceraient le sang s'ils n'étaient dissimulés par le voile terne de leur optimisme. Mais ce n'est pas à eux que je dois la vision fugitive de ces éons interdits, qui me fait frissonner lorsque j'y pense et me rend fou quand j'en rêve. Cette vision, comme tous les épouvantables aperçus de la vérité, a surgi de l'association fortuite d'éléments distincts. Dans ce cas, un ancien article de journal et les notes d'un universitaire défunt. J'espère que personne d'autre ne commettra jamais cette même association. Je sais avec certitude que tant que je vivrai, je ne me permettrai pas d'ajouter consciemment le moindre maillon à cette effroyable chaîne d'événements. Je pense que le professeur souhaitait, comme moi, taire ce qu'il avait appris, et qu'il aurait détruit toutes ses notes si la mort ne l'avait aussi brusquement emporté. Mon implication dans cette affaire remonte à l'hiver 1926-1927. Avec le décès de mon grand-oncle, George Gemmell Angell, professeur émérite de langue sémitique à l'Université Brown de Providence, dans l'État de Rhode Island. Le professeur Angell était unanimement reconnu comme l'un des plus éminents épigraphistes du monde, et il arrivait fréquemment que les conservateurs des musées les plus prestigieux fassent appel à ses services. De sorte que sa disparition à l'âge de 92 ans reste encore dans les mémoires. Au niveau local, l'intérêt suscité par cette nouvelle fut d'autant plus vif que les causes de son décès étaient mystérieuses. Le professeur avait trouvé la mort sur le chemin de son domicile alors qu'il revenait du ferry de New